Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut Rokaya.
Salut Grace.
Salut les auditorices.
Vous trouverez la suite de Kif Taras et les nouveaux épisodes à écouter sur votre plateforme habituelle de podcast.
Faites simplement une nouvelle recherche avec le titre Kif Taras chez Pseudo Radio et abonnez-vous à ce fil.
Bien sûr, les quatre premières saisons des épisodes de Kif Taras resteront toujours disponibles chez Binge Audio.
Merci pour votre écoute précieuse
et à bientôt.
Bonjour Rokaya.
Salut Grace.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kif Taras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales.
Ici, dans Kif Taras, on parle d'arabes, d'asiatiques, de blancs, de roms, de noirs et tout ça sans aucun complexe. Le football, qui est le thème d'aujourd'hui, est le sport le plus populaire du monde. En France, c'est presque une religion dont les mouvements font régulièrement trembler la sphère politique et médiatique. Depuis la victoire de l'équipe de France en 1998 et sa fameuse équipe de champions Black Blanc Beurre, tout ce qui a trait au bleu fait régulièrement l'objet d'une instrumentalisation identitaire et politique. La dernière polémique en date a été déclenchée par des déclarations de Lilian Thuram et nous en reparlerons évidemment tout à l'heure.
Et donc pour parler de foot aujourd'hui, des questions raciales qui sont liées, nous avons invité un acteur du terrain qui n'a pas la langue dans sa poche. Vous le connaissez, il s'agit de l'ancien international de football français, Vikash Dhorasoo.
Salut Vikash.
Salut
Vikash.
À vous deux.
Alors maintenant tu as été joueur de football, ouais. Et maintenant tu es consultant chez Yahoo et pour l'équipe.
L'équipe, oui, voilà. Et puis je suis parrain d'Oxfam, qui est une ONG qui lutte contre la pauvreté et les inégalités à travers le monde. Et j'étais président de Tatane, qui milite pour un foot durable et joyeux. Voilà, je suis un peu sur le terrain aussi.
Ouais, toujours. Ouais.
Tous les terrains.
C'est pour ça d'ailleurs qu'on t'a proposé de venir avec nous. Donc Vikash, en Kif Taras, nous avons un rituel. Nous demandons à nos invités s'ils ou elles sont capables de se situer sur le plan racial. Par exemple, Grace est asiatique et moi je suis noire. Est-ce que toi, Vikash, tu te positionnes sur cette question-là?
Bah, je suis noire.
D'accord.
Voilà.
Ça le mérite d'être clair. Tu définis comme noir.
Tu te définis comme noir.
Bah, je veux dire, je suis pas blanc en tout cas.
Non, c'est là-dessus, c'est certain.
Et puis moi, je viens d'un quartier hyper mélangé où il y avait des blancs, des noirs, des arabes, et puis on se faisait recaler en boîte de nuit. Donc je me suis dit, je dois être noir.
C'est une vraie déduction.
Parce que du coup, ton parcours, tes aïeux, voilà.
Donc mes arrière-grands-parents viennent de l'Inde. En fait, quand ils abolissent l'esclavage à l'île Maurice, ils vont chercher de la main d'œuvre en Inde. Donc ils font venir d'abord les hommes, ensuite les femmes pour travailler la canne à sucre. Et mon père, ensuite, lui, a quitté l'île Maurice il est d'abord venu tout seul travailler sur les chantiers navals. Il y avait des propositions de travail. Il a quitté l'île Maurice. Il est venu d'abord seul. Ma mère a rejoint mon père avec ses trois enfants. Elle était toute jeune. Elle avait 22 ans, je crois. Et puis moi, je suis né en France. Je suis le seul. C'est un sacré chemin. Hein.
Ouais. Ouais, bah oui, de l'océan Indien.
Et du coup, toi, tu te dis indien, français, bien sûr. Ouais. Mauricien, non?
Oui,
aussi.
Je sais pas. Ah, tu sais, un jour, j'étais en Inde et puis quelqu'un et j'étais dans un coin de rue et j'attendais et puis quelqu'un est venu me demander sa route. Et je me suis dit.
Dans un local, quoi.
Ouais. Et je me suis dit, putain, je suis indien.
C'est la révélation.
Mais ce qui est marrant, voilà, nous, on est un peuple, on a été colonisé, quoi. Tu vois, on est un peu soumis au départ par les Anglais. Et ça reste un peu
Mais du coup, tu as répondu quoi à la personne? T'as fait style, tu savais la route ou est-ce que tu savais vraiment la route?
En Inde, c'est très étrange parce qu'en fait, y a, tout le monde parle toutes les langues. Il y a tellement de langues. Et donc, je n'ai pas su répondre parce qu'il parlait, je ne sais pas ce qu'il parlait comme langue. C'était à Calcutta.
D'accord.
Il parlait bengali, je pense.
Mais en plus, du coup, en France, on parle très peu des personnes d'origine indienne, puisque l'histoire de l'immigration française, c'est les colonies françaises, les ex-colonies françaises, la plupart du temps. Donc l'Inde n'étant pas une ex-colonie française, mais britannique, c'est vrai que c'est hyper rare de voir dans l'espace public des personnes d'origine indienne.
Ouais.
Et souvent, on nous dit, mais vous dites asiatique, et dans asiatique, vous excluez... Être asiatique en France, c'est souvent être asiatique de l'Est, puisqu'on on pense aux Chinois, on pense aussi aux Asiatiques du Sud-Est.
Nous, on est du Sud.
Et vous êtes du Sud. Toi, tu dis pas de l'Ouest.
Nous, on est du Sud. Je crois que on est
plutôt... Asie de l'Est, de l'Ouest, toi, du coup.
Ouais.
Mais tu dis pas asiatique, du coup. Tu te sens... Est-ce que quand on dit asiatique, tu dis asiatique
Par exemple,
ou pas
en Angleterre, on est 3 millions d'Asian people, indo-pakistanais. On s'est... vachement organisé, on est hyper puissant parce qu'on a tout, on a des cinémas, de la publicité.
La mairie de Londres.
Je vais faire une photo, vous voyez, c'est possible. avec Cannes. Mais je suis indien, hein, tu vois, ma culture à la maison, c'était les films de Bollywood, la bouffe indienne, les chants, enfin tout. Puis en même temps aussi mauricien, avec le folklore mauricien, avec le Sega mauricien, avec mes parents qui parlaient mauricien, mon père répondait à son père en indien et nous on répondait en français à nos parents. C'est décalé comme ça.
Et du coup, moi je pense à ce qu'on en a déjà parlé ici dans Kif Taras, mais en anglais ils disent brown people.
Asian people.
Asian people, mais brown people c'est encore plus inclusif parce que ça veut dire c'est tous les personnes noires, non blancs en fait. Brown people, ça veut dire tous ceux qui ont une 50 shades of brown, tu vois. Enfin, nous quoi. Et c'est plus, c'est peut-être là-dedans que tu t'inclus aussi.
Oui, bien sûr.
De
toute façon, je m'inclus dans toutes les. On est minoritaire, mais tu vois, même les femmes sont minoritaires, c'est n'importe quoi. Mais dans toutes les personnes qui subissent des discriminations, et voilà, moi je suis dans cette partie de la société. Moi je suis un homme maintenant un peu privilégié, grâce au foot, j'ai une ascension sociale incroyable, et donc moi il ne va plus m'arriver grand chose, sauf quand on ne me reconnaît pas, quoi. Quand on ne me reconnaît pas, je redeviens. Un homme noir.
Oui, parce que pour ceux qui ne te connaissent pas, ta carrière de footballeur, tu as été un joueur de foot français dans des grands clubs comme le PSG et aussi à l'international.
Oui, bien sûr.
J'ai joué en
Italie,
en équipe de France.
J'ai fait une finale de Coupe du Monde. Enfin, c'est pas rien, quoi. C'est juste incroyable. Un mec d'un quartier, d'un HLM, qui se retrouve à faire ça, c'est fou,
c'est magique. Justement, c'est de foot qu'il est question aujourd'hui, Grace.
Ouais, on va parler de foot et du racisme, enfin des questions raciales dans le foot. Est-ce que toi, tu as ressenti une évolution dans les débats qu'il y avait quand tu étais joueur professionnel et aujourd'hui, où le foot alimente régulièrement les polémiques médiatiques, est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui a changé ou pas?
J'en sais rien, en fait, parce que je me méfie beaucoup de comment on traite ce qui se passe et qu'est-ce qu'on en fait. Moi, je suis sûr quand même que à travers le monde, le nombre de matchs qu'il y a, dans le nombre de stades, dans le nombre de divisions, soit chez les femmes et chez les hommes, je veux dire, il y a plus de matchs qui se passent super bien, où il n'y a rien, où c'est formidable, parce que le foot est formidable, parce que le foot fait en sorte qu'on fait la passe à l'autre, qu'on joue au foot. Je ne peux pas marquer un but sans... même Messi ne peut pas jouer au foot sans l'autre, ce n'est pas possible. Donc, évidemment, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, on le récupère et on en fait quelque chose. Et donc, c'est toujours navrant, c'est toujours dramatique, c'est toujours trop, il faut le combattre, mais je suis sûr que ce n'est pas la réalité. Alors, je ne suis pas dans un quartier, c'est peut-être plus difficile. Donc, au niveau professionnel, en ce moment, il y a des cris de singe, par exemple. Comment on l'utilise? Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on lutte contre tout ça? Moi, ce que je remarque quand même, que s'il n'y avait pas tous ces problèmes, moi, je me trimballe dans la vie et tout se passe bien, quoi. Mes enfants sont métis, il y a de plus en plus de métis autour de moi, de gens mélangés, et c'est le sens de l'histoire. Et tout va bien, il ne se passe rien en fait. Mais il y a des endroits où c'est plus compliqué, il y a des endroits où c'est plus grave, où il y a peut-être de la violence et plein de choses comme ça.
Et du coup, comment t'expliques justement que autour de l'équipe de France se cristallisent autant de questions ? C'est-à-dire que entre l'équipe Black Blanc Beurre qu'on a appelée comme ça en 98 et aujourd'hui, il y a eu plein de polémiques. Et vraiment, on a l'impression que l'équipe de France est devenue le reflet de tensions identitaires qui traversent le pays, et c'est devenu le support en fait d'énormément de vagues.
Ce qui est sûr et certain, c'est que Black Blanc Beurre, alors ça existait ou pas, en tout cas, c'était un sacré beau message. Derrière, il s'est rien construit, quoi. Puisqu'on s'est retrouvé à Knysna, donc 12 ans plus tard, avec Roselyne Bachelot qui prenait la parole lors de la grève du bus en disant ces petits caïds de banlieue, etc. Et c'est clair qu'elle visait les musulmans, puisque ce qui était très, très rigolo à ce moment-là, c'est que derrière, dans l'inconscient collectif, les responsables sont Nasri, Benzema et Ben Arfa, qui
alors,
n'étaient même
pas... Alors, je vais juste resituer, excuse-moi, pour les gens qui ne suivent pas le foot, Knysna, c'était la Coupe
mais
du Monde en Afrique du
foot.
Sud. Je ne sais pas, c'était la Coupe du Monde en Afrique du Sud en 2010.
Voilà, il y a la grève des bus.
C'est ça, il y a eu effectivement des tensions internes à l'équipe, voilà. Notamment avec l'entraîneur, et une grève des joueurs de l'équipe qui ont refusé effectivement de descendre du bus. Une lettre a été lue par
Patrice Evra. Et voilà, donc on a évidemment les petits banlieues de cartes, les petits caïds de banlieue, c'était forcément les petits noirs, les petits arabes.
Mais d'ailleurs, je propose, puisque tu as parlé de Roselyne Bachelot, qu'on écoute un son qu'on avait prévu
d'excuser
plus tard.
Ah, bah tu vois, fait un petit teaser.
Voilà, c'est ça, là, tu nous as fait. Voilà,
on appelle
exactement.
Ça une passe décisive au foot.
Jamais le gouvernement n'aurait dû avoir à s'occuper de la Coupe du Monde de football. Car c'est la responsabilité de la Fédération Française de Football. Responsabilité sur le plan financier, sur le plan technique, sur le plan logistique. Je ne peux que constater, comme vous, cher Jean-François Lamour, le désastre, avec une équipe de France où des caïds immatures commandent à des gamins apeurés, un coach désemparé et sans autorité, une Fédération Française de Football aux abois.
Alors, donc effectivement, c'était en 2010, Roselyne Bachelot, qui était à l'époque ministre de la Santé et des Sports devant l'Assemblée nationale, elle avait également dit « c'est l'image de la France que vous avez ternie » en s'adressant aux joueurs de foot. Par ailleurs, le philosophe Alain Finkielkraut a qualifié, lui, l'équipe de France de cette époque de « bande de voyous », je le cite, en ajoutant qu'il ne représentait pas la France. Et hélas, ça la reflète avec ses clans et ses divisions ethniques.
Moi, ce que ça m'inspire, tout ça, comme aujourd'hui avec Macron, quand il, aujourd'hui, donc il va y avoir l'immigration tu vois, à l'Assemblée, alors que la planète va... on va dans le mur, quoi. Mm-hmm. On va en crever, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de sable. C'est des ringards, quoi. Ils sont d'un autre temps. Et donc, ils essaient de sauver les meubles comme ils peuvent en stigmatisant, en nous clivant, mmh. en nous opposant. Alors qu'on en est, Greta Thunberg, ce qu'elle a fait, c'était nous rassembler avec des scientifiques derrière. Et eux, ils n'ont pas compris. Quoi, que c'est, évidemment, ils sont politiques, ils ont tout intérêt à ce que ça se passe comme ça. Parce que le jour où on est ensemble, en fait, parce qu'on est ensemble, il y a très peu de gens qui sont racistes, qui sont cons, par contre, ils sont au pouvoir, ils ont les médias souvent, et ils ont de l'argent. Et souvent, nous, on n'en a pas.
Mais ce qu'on relève, c'est que quand l'équipe gagne, on est tous bleus. Et quand l'équipe pose un problème, enfin là, pour la grève des bus, il y a un problème qui se pose, et c'est des caïds. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une vraie double lecture de la représentation des bleus. C'est-à-dire que quand ils descendent les Champs-Élysées, c'est des Français.
Ouais.
Par contre, quand là, ils montrent un signe d'opposition à l'autorité, là, pour le coup, c'est quelque chose, ils revendiquent quelque chose en faisant grève, tout de suite, c'est une bande de voyous, c'est des caïds, on les renvoie à leurs origines. Et du coup, ils ne sont plus du tout aussi Français que quand ils gagnent. Donc, est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as vécu, d'être Français selon tes performances ?
Ouais, je l'ai ressenti. De toute façon, j'ai toujours senti, oui, le regard de l'autre, il est différent. Oui, oui, quand je jouais bien, je jouais mal. Alors moi, je vais pas devenir parano, mais c'est vrai, c'était ça quand même. Ouais. Je l'ai ressenti, ouais, ce truc-là, en fonction de mes performances. Ma performance n'est pas regardée de la même façon que la performance du numéro 10 ou mon opposant qui n'est pas noir ou arabe, j'en suis sûr. Mais je ne peux pas aller là-dessus, parce que moi, je suis un sportif et je ne peux pas me dire que je suis mal noté parce que je suis noir et arabe. Enfin, je suis mal vu par l'entraîneur ou mal vu par le public ou par les médias. Je ne peux pas rentrer là-dedans. c'est compliqué hein, tout ça.
Mais ce que je trouve intéressant...
J'ai pas un avis définitif sur pas grand-chose, d'ailleurs.
Mais ce que je trouve, si, quand même. En tout cas, t'as une opinion qu'on trouve intéressante, c'est pour ça qu'on a voulu t'inviter. Ce que je trouve intéressant dans ce que disaient à la fois Roselyne Bachelot et Alain Finkielkraut, c'est vraiment cette distinction qu'a fait à la fois des origines raciales, enfin c'est sous-entendu des joueurs de foot, mais aussi le côté social. C'est-à-dire que vraiment, tu évoquais tout à l'heure le côté des gamins qui viennent de quartier, il y avait les méchants qui opprimaient le pauvre Johan Gourcuff, qui était le pauvre, enfin qui était la victime de ces voyous venus de banlieue, et qu'elle mobilise la ministre de la Santé le terme de caïd et Alain Finkielkraut le terme de voyou. Je trouvais que quand il gagnait effectivement tout ce côté de quartier, etc., était considéré comme une richesse magnifique, mais dès qu'il perdait, tout d'un coup on disait bah voilà, ces jeunes n'ont pas d'éducation parce qu'ils viennent de banlieue.
Mais dans quelle que soit la situation qu'on perd ou qu'on gagne, on reste des gamins de quartier et de banlieue. Quoi qu'il arrive.
Mais des fois c'est négatif et des fois c'est
positif.
Ouais,
mais même quand c'est positif, c'est des gamins de banlieue qui jouent au foot et on ne nous donne pas accès à autre chose. Moi, l'ascension sociale que j'ai, elle est par le foot. Ouais. Elle n'est pas par autre chose. Ouais. Et on est une minorité à faire autre chose, Sciences Po, etc. C'est pas pour nous. Hein. La méritocratie, ça n'existe pas en France. C'est faux. L'égalité des chances et tout ça. Donc, moi, par le foot, j'ai pu accéder à quelque chose. Mais à l'arrivée, regarde, aujourd'hui, combien il y a de dirigeants qui sont des anciens joueurs de foot ou des gens qui ont des hauts postes dans les clubs, des hauts dirigeants? Zéro. Zéro. Fédération, c'est pareil. Ligue de football professionnel, c'est pareil. FIFA, c'est pareil. UEFA, c'est pareil. COJO, Comité d'organisation des Jeux Olympiques, c'est pareil. L'UNECATEF, le syndicat des entraîneurs, c'est pareil.
Tu veux dire que si on faisait une photo aujourd'hui des entraîneurs et des instances dirigeantes et des exécutifs, c'est-à-dire des personnes qui sont sur le terrain, qui jouent au foot, enfin, ou dans les, enfin, sont sur le terrain des autres sports, il y a une vraie... on va dire, un fossé entre la couleur qu'on peut voir.
Évidemment, oui, évidemment, oui. On est 60% médaillés olympiques noirs et arabes. Il y a une personne dans le comité d'organisation des Jeux Olympiques, un noir, sur 120 personnes. L'autre fois, j'avais une photo de l'UNECATEF. On est quand même tous des noirs et des arabes, 60% à peu près pareil en Ligue 1. Il y avait une photo des entraîneurs, zéro noir. C'est comme ça partout, mais la société française fonctionne comme ça.
Enfin, française, pas que, enfin, parce que si on va sur les instances internationales, c'est pareil
aussi.
Ah
bon, il a FIFA, ouais, etc. Voilà, ouais. Oui, l'homme puissant, ça me fait rire. La Fédération française de foot, 13 personnes au comité exécutif, ils ont l'obligation de mettre 3 femmes. Eh bien, il y en a 3, il n'y en a pas 4. Alors ça, c'est un sketch. 3 femmes et pas 4. Et l'homme... dirige. Hein. Et ce qui était marrant, au moment de... Griezmann a fait la une de Têtu, puis après, il a pris des positions sur l'homophobie. Et bien, c'est lui qui monte la voix. C'est un joueur de foot. C'est pas Le Graët qui a dissocié le racisme et l'homophobie, par exemple.
Oui, ce que tu veux dire, c'est que c'est aux joueurs... Enfin,
ils sont
puissants de toute façon.
Malheureusement, ouais, ils n'ont pas compris. Enfin, on n'a pas compris, parce que j'ai été joueur de foot. On est puissants, puis on est bien... Enfin, on est ouvert d'esprit, on n'est pas toujours, mais... On est capable, quoi. On est jeunes.
C'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, il y a un gros décalage entre ce qui s'exprime sur le terrain et ce qui s'exprime dans les instances. Et on voit que ça oriente aussi la rhétorique qui peut exister dans les instances dirigeantes. On peut penser, par exemple, à toute la polémique qu'il y avait autour des quotas. Avec Laurent Blanc en 2011, me semble-t-il, sur l'idée de mettre un quota de joueurs d'origine africaine, en disant que en Espagne il y avait moins de, je sais plus comment ils avaient dit, moins de blacks et donc moins de problèmes. Par conséquent, c'était une personne qui était autour de la table qui avait enregistré, je crois que ça s'appelle Mohamed Belkacemi, c'est ça, qui avait enregistré en tout cas la conversation, et du coup c'était Mediapart qui avait sorti les fichiers, disant justement qu'on voulait limiter le nombre de joueurs d'origine africaine ou noire dans l'équipe de France. Donc ça montre que les instances, quand elles sont blanches, elles se permettent aussi d'avoir des attitudes.
Ouais, et puis il y a eu aussi les Football Leaks avec le Paris Saint-Germain, où ils ont découvert qu'il y avait des... Et puis après, alors ça m'avait beaucoup surpris, parce que j'ai toujours pensé que le foot était incontestable. Et là, je me suis dit, mais en fait, non, tu peux décider d'apprendre à tel ou tel joueur. Je pensais que si t'étais bon, ça se voyait trop et tu jouais. Et ben non.
C'est-à-dire qu'en fait, l'entraîneur, enfin la personne qui est au-dessus, qui entraîne l'équipe, peut décider qui va être bon et qui va pas être bon, puisqu'il va donner plus de formation, par exemple, à une personne qui décide de former et d'autres qu'on laisse sur le banc ou qu'on laisse sur le bas-côté parce que ils n'ont pas les. Enfin, c'est pas une question de talent. Du coup, c'est une question de.
De choix, quoi.
De faciès.
Bien sûr, ouais.
Et donc ça, c'est vraiment choquant quand tu crois que le foot rassemble. Enfin, tu vois, les valeurs du foot, c'est quand même...
Ça reste incontestable quand même, parce que t'es fort, tu joues... comment on va empêcher un gamin de montrer qu'il est fort? Mais évidemment, il faut s'entraîner, c'est de la répétition, hein, comme beaucoup de domaines. Donc, si tu répètes moins que l'autre, et puis si t'es pas mis en valeur, on peut te casser sur ta confiance et tout ça. Le foot monte la voix. Je veux dire, qu'est-ce qui est beau récemment en France, à part l'équipe de France qui a gagné? Je veux dire, on est tellement en retard sur tellement de trucs par rapport à plein d'endroits. Hein. L'équipe de France gagne avec une belle couleur en se faisant la passe, qui montre qu'ensemble, on peut faire des belles choses. Ben, il n'y a pas grand-chose hein, aujourd'hui. Enfin, on nous fait croire qu'il n'y a pas grand-chose. En tout cas, à l'étranger, c'était ça l'image. Hein.
Mais ce qui est intéressant, c'est justement, à l'étranger, il y a beaucoup de questions qui sont posées du fait de la composition ethnique de l'équipe de France, où effectivement, beaucoup de personnes disaient, bah voilà, la dernière équipe africaine en lice, c'est l'équipe de France. Et Trevor Noah, le présentateur aux États-Unis, qui a fait une blague en disant que l'Afrique avait gagné la Coupe du Monde. Et l'ambassadeur de France aux États-Unis lui a écrit une lettre pour dire que ses joueurs n'étaient pas africains, mais français. Et c'était intéressant parce que habituellement, quand on est noir en France, on se bat pour être reconnu comme français. Et là, c'était la première fois de ma vie que je voyais autant de blancs se battre pour dire, mais non, ils sont pas africains, ce sont des Français.
C'est louche, non?
Voilà, ouais, c'était très étrange.
Et j'ai trouvé que la réponse de Trevor Noah à l'ambassadeur était excellente, ouais, puisqu'il a fait une autre émission où il a répondu en disant, il a lu la lettre de l'ambassadeur qui disait, bon, je me rappelle que d'une phrase qui disait l'équipe de France est le reflet de la diversité de la France, et Trevor Noah a dit c'est le reflet de votre colonialisme.
Exactement.
Et j'ai trouvé ça absolument incroyable et qu'on n'aurait jamais dit en France, même si c'est exactement, enfin c'est la vérité.
Bah c'est ça. C'est effectivement c'est complètement le reflet de l'histoire coloniale et toutes les façons, toutes les générations de footballeurs sont à la fois le reflet de l'histoire ouvrière, de l'histoire en fait des classes populaires françaises et de l'histoire de l'immigration par conséquent. Quoi.
Et du coup, le foot est un reflet de la société française avec. Avec tous ces paradoxes, puisqu'il y a énormément de paradoxes dans le foot, comme il peut y avoir des belles choses. Et c'est tout à fait. C'est vraiment, pour moi, le reflet de ce que nous, on vit de manière très exacerbée et beaucoup plus grandiose. Tout ce qu'on voit, c'est-à-dire que. Là, tu as parlé des cris de singe. Parce que c'est quelque chose qui arrive aux joueurs de couleur noire. Est-ce que toi, ça t'est arrivé qu'on fasse des cris de singe quand tu jouais sur le.
Non.
Mais bon, en tout cas, ça arrive depuis assez longtemps, parce qu'à ton époque, c'était déjà le cas.
Oui, bien sûr, il y avait eu l'événement avec Marseille, l'OM et Joseph-Antoine Bell, notamment, qui raconte très bien ça dans le documentaire de Dacour.
Ouais. Je ne suis pas un singe.
Voilà. J'avais bien aimé. Enfin, j'ai pas vu le documentaire, j'ai vu des extraits. Et Joseph Antoine Bell disait qu'il n'avait pas été soutenu par ses coéquipiers, et que lui, en tant que joueur de foot, il était obligé de continuer parce que c'était son métier et que voilà, il devait montrer qu'il était fort face à ça. Là, il y en a eu récemment. Après, il y a eu Lilian qui a pris la parole.
Ouais, c'était Lukaku en Italie qui a été...
C'était plus ça qui était intéressant, je trouve, là-dedans. Comment le fait de défendre Lukaku, qui avait subi des cris de singe, et comment on puisse renvoyer les gens à ce qu'ils avaient fait. Il y avait une levée de bouclier, enfin un truc... on a oublié les cris de singe, mais on a attaqué Lilian qui... Alors déjà, tout de suite, tu es communautariste. Mm. Et puis aussi, c'est tais-toi... reste à ta place, quoi.
C'est un peu...
On va juste rappeler
la polémique, donc c'est...
Après, je t'ai beaucoup suivi sur tout ce que tu disais là-dessus. Enfin, vous deux, je vous ai beaucoup lu et écouté. Et voilà, c'était hyper juste.
Donc la polémique, c'était qu'un joueur qui s'appelle Lukaku, qui joue en Italie, a été exposé à des cris de singe. Donc lui, il est belge, mais bon, il joue en Italie, il a été exposé à des cris de singe. Et Lilian Thuram a été... interviewé dans un journal italien qui s'appelle Il Corriere dello Sport, et il a parlé du complexe de supériorité qui était celui des supporters blancs. Et donc, dans la traduction et dans les mots qui ont filtré, qui ont été publiés par l'équipe en France, ça faisait dire à Lilian Thuram que les blancs avaient un complexe de supériorité et que le racisme faisait partie de la culture blanche, de la culture européenne.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
africaine de la culture française. Et ce qui était dingue, c'est que ça a déclenché une polémique incroyable contre Lilian Thuram, qui tout d'un coup a été qualifié de raciste anti-blanc, et que tout ce qu'il dénonçait, en fait, qui était à la base les cris de singe, a été complètement effacé. Bah, oui, c'est-à-dire que tout le monde s'est concentré sur lui.
Il a
pris la parole d'ailleurs beaucoup sur sa vie.
Il y a un super article, un super interview de Lilian dans Mediapart, là, qui était hier, il y a deux, trois jours, qui est génial, où il prend la parole. Tu vois que c'est posé, c'est calme. Tu te rends compte, je me retrouve à défendre aller dire que le racisme anti-blanc n'existe pas, quoi. J'en suis là, quoi. Ça fait chier.
C'est pas du
tout
une évidence, hein, d'ailleurs.
Putain, j'ai pas que ça à faire, quoi. Non, mais c'est quand même. Tu vois, et tu. Comment dire. Bah oui, l'extrême droite a réussi à imposer ce truc de débat, comme sur la laïcité, comme sur plein de sujets comme ça. Et c'est malin, quoi.
Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de personnes de gauche ont dit Lilian Thuram essentialise la LICRA, quand même, la Ligue internationale
La LICRA, c'est quoi la LICRA?
C'est la Ligue internationale de lutte contre le racisme
et l'antisémitisme.
Non, c'est pas contre le racisme. Quand tu décides de ne pas défendre Lilian Thuram, dans ce moment-là, SOS Racisme a défendu Lilian Thuram, ça veut dire que tu ne défends pas le combat. Tais-toi!
Ils ne l'ont pas défendu, mais ils s'en sont pris à lui en disant en s'en prenant à lui. Et ça, c'était vraiment, c'est inquiétant venant d'une association qui se dit antiraciste.
Non, tu dois défendre Lilian. Il est puis Lilian, il s'y connaît, quoi. C'est son taf, quoi. Le mec, il a bossé le truc. Hein. Donc il fait pas de conneries. Quoi.
Et d'ailleurs, enfin, juste une parenthèse sur la LICRA, quand même, quand on regarde la photo du conseil d'administration de la LICRA, il y a pas. Enfin, je veux dire, c'est pas très. C'est pas le reflet, en tout cas, de.
Bah, c'est comme si tu luttais contre le sexisme sans femme, quoi. Ça va être embêtant, quoi.
C'est un peu ennuyeux.
Il y a quand même un constat dans le football en 2019 que des cris de singe ne sont pas considérés comme étant étant quelque chose qui puisse arrêter un match. En tout cas, c'est pas considéré comme quelque chose qui. Enfin, le progrès social dans le foot, il reflète pas ce qu'il y a dans la société. Parce que tu as évoqué l'homophobie tout à l'heure. Là, aujourd'hui, il y a une vraie mobilisation, et je trouve ça très bien, dans le foot, contre l'homophobie. Donc, s'il y a des chants homophobes, il y a des sanctions. S'il y a des banderoles homophobes, il y a des sanctions au niveau du match. C'est-à-dire que. Alors que des cris de singe envers un joueur.
Au moment où il y a les cris homophobes, il n'y a pas eu de cris de singe. Mais d'ailleurs, le Graet, c'est là qu'il a fait une erreur. Il a comparé les deux, il a mis l'homophobie en dessous du racisme et des cris de singe. C'est ce qu'il a fait, oui.
D'accord.
Ouais. Et donc, s'il y a des cris de singe, normalement, on arrête le match. C'est réglé. Et lui, il a dit non, c'est l'homophobie, c'est le folklore, c'est rigolo. C'est...
Ah, ouais, d'accord.
Voilà. Il y a un truc important. Ce que j'ai remarqué, c'est que, par exemple, Prince Guayano, là, tu vois, c'était un joueur d'Amiens la dernière fois. Il a failli arrêter le match. Et c'est Antoine Gombouaret et l'autre entraîneur qui l'ont dit allez, on recommence. Et c'est un peu ça que le problème, c'est qu'on recommence toujours. Et la fois d'après, on arrêtera. Sauf que la fois d'après, c'est forcément un autre stade, des autres racistes, un autre match, tu vois. Donc et de nouveau la fois d'après. Et jusqu'à présent, il n'y a pas eu de match qui a été arrêté, quoi. Mm-hmm. Stop.
Mais c'est dans l'intérêt des joueurs de ne pas arrêter le match en même temps.
C'est l'intérêt du spectacle audiovisuel qui passe à la télé, qui vend des droits de télévision. Le seul truc qui leur fait peur à tous ces gens, c'est que le match s'arrête.
Ouais, par rapport aux revenus que ça
génère. Les publicités, etc. Hein.
Mais en fait, ce que je trouve vraiment choquant, c'est de dire en fait, à quelqu'un qui vient d'être victime d'une agression raciste, en fait, de faire comme si rien n'était arrivé. Mmh. Et de ne pas marquer ça comme quelque chose qui était extrêmement violent, extrêmement humiliant et qui mérite vraiment qu'on s'attarde. Parce que les injures racistes, c'est quand même quelque chose qui est sanctionné par la loi. Donc quand on se fait attaquer de manière générale, on ne dit pas aux gens continuez, passez votre chemin et faites comme si de rien n'était.
C'est ce qui se passe dans le football.
Exactement.
Et surtout qu'il y a des supporters qui ont exprimé le fait que c'était une arme. C'est-à-dire qu'ils ont dit non, mais ça c'est pour nous, c'est une arme pour déstabiliser l'adversaire.
C'est horrible.
Donc utiliser quelque chose d'illégal, parce que c'est quand même illégal d'injurier une personne en fonction de sa couleur de peau. Donc quelque chose d'illégal est utilisé comme une arme sur un terrain pour déstabiliser l'adversaire. Enfin, ça c'est complètement. Enfin, bon, ça devrait être sanctionné en tout cas.
Les joueurs de. Là, moi le truc que je suis plus joueur. Je suis en dehors. Je peux aider ceux qui jouent et ceux qui jouent pas. D'autres. Il faut que le match s'arrête. mais que tout le monde s'arrête. C'est-à-dire les Noirs, les Blancs, tout le monde. C'est un truc solidaire. Je veux dire, Lilian, il dit un truc qui est super. Moi, l'autre fois, il disait, mais en fait, ça ne sert à rien de dire je ne suis pas raciste. Il faut dire je suis antiraciste. Je trouve ça pas mal. Ouais, parce que c'est un effort pour nous tous. Je veux dire, le sexisme, moi, je ne suis pas une femme. Quoi. Donc, on m'a éduqué, j'apprends, je progresse. Pour tout. Pour tout.
C'est... Ouais. Il a une bonne remarque d'ailleurs, Lilian Thuram, quand il interroge les gens sur leurs observations, les gens qui ne sont pas eux-mêmes victimes de racisme, sur ce qu'ils observent dans le racisme. Quand les gens disent oui, effectivement, je vois qu'il se passe ça, il leur dit mais qu'est-ce que vous faites pour que ça change ? Et je trouve que c'est vraiment voilà. Mettre les gens face à leurs responsabilités.
Ouais. Il y avait un super article d'un basketteur, un grand basketteur américain, blanc, Westbrook, qui on lui dit sale noir sur le terrain et tout. Il a écrit un super papier.
Ah oui, sur le privilège blanc.
Sur le privilège blanc qui était génial. Et il dit nous, soit on se tait, soit on se bat avec vous. Il faut qu'on le fasse ensemble. Mais comme dans toute la société doit faire tout ensemble aujourd'hui. On a un moment crucial où on va dans le mur, on va en crever, quoi, la planète. Et bien, si on ne s'entraide pas, si on n'est pas solidaire, si on n'est pas dans l'empathie, la sagesse, plein de choses comme ça, mais c'est foutu. C'est foutu.
Et moi, j'aimerais revenir sur quelque chose qu'on a évoqué tout à l'heure. C'est le fait que dans le foot, il y a eu des stéréotypes qui ont été portés vraiment sur le devant de la scène. C'est-à-dire que ce soit au PSG par rapport au fichage ethnique, c'est-à-dire qu'on attribuait à des personnes avec une origine et une couleur de
des
peau
caractéristiques.
Des caractéristiques physiques et des compétences en fait. C'est-à-dire que donc l'homme noir est puissant, mais pas très leader. Enfin, je ne sais plus que l'homme.
Il y avait eu la polémique avec Willy Sagnol aussi sur les joueurs africains.
Tu as raison.
Ils n'avaient pas l'intelligence du jeu.
Oui, c'est ça.
Ils n'avaient pas l'intelligence du jeu, les Africains.
C'est des gros bras, mais c'est ouais, pas, c'est ça, ils n'ont pas de cerveau.
Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, on ne peut pas les mettre à certains postes parce que.
On va demander à Jafet Endoram ou à je sais pas, Georges Weah s'ils sont.
c'est quand même incroyable que ça perdure, en fait. C'est quand même des stéréotypes qui sont. Enfin, moi, je pense qu'ils sont diffus dans toute la société. C'est pas que dans le foot, hein. C'est-à-dire de dire que les personnes noires sont grandes, costaudes, d'autres personnes seraient moins physiquement moins puissantes, mais qu'ils auraient vraiment plus de choses dans la tête. Ça, c'est des choses qui sont partout. C'est pas que dans le foot, mais dans le foot, il y a, force est de constater que c'est présent.
Oui, c'est certainement aussi un rapport à la colonisation, le rapport à l'esclave, l'animal qui travaille, etc. C'est toujours pareil. Hein.
Ça, tu l'as ressenti, toi, quand tu jouais ? Enfin, ces stéréotypes et la manière dont on distribuait les rôles des uns et des autres ?
Je me souviens pas, genre de... Je pourrais te dire...
Non, mais après...
Non, comme ça, non. Non.
Moi, j'ai une question par rapport à toi. Parce que quand j'ai regardé ton profil, il y a plein de gens qui disent que tu es petit, parce que tu fais 1m69.
Ouais.
Et donc, tu es un petit peu en dessous de la moyenne nationale, j'imagine. Et dans le foot, c'est quand même... Enfin, le terrain de foot, pour moi, c'est quand même la virilité un peu de la masculinité hégémonique. C'est-à-dire, les mecs sont grands, ils sont barraqués, enfin bon... Ça... Et du coup, il y a toujours un truc. D'ailleurs, récemment, Lili Sarrazou a été traité de petit joueur parce que lui aussi fait 1m69. Est-ce que du coup, toi, est-ce que le fait que tu sois d'origine indienne, ça, parce qu'on dit souvent les personnes asiatiques sont petites, les Indiens, les Chinois, enfin, il y a dans les, alors que bon, enfin, moi, je connais des gens très très grands.
Sur 1 milliard, 500 millions d'habitants.
Il y a moyen qu'il y ait des grands.
Statistiquement, je ne sais pas qui a raison.
Tu es capable de faire une équipe de basket. Hein,
mais du coup, il y a quand même cette idée qui perdure de vous, les Asiates, vous êtes quand même petits. C'est pour ça que vous n'êtes pas bon en sport, parce qu'il y a vraiment cette idée que, bon, vous faites du ping-pong. Enfin, moi, je parle des Asiates, les Chinois et tout. On nous dit, ouais, vous faites du ping-pong et des arts martiaux, mais bon, quand il s'agit des sports collectifs, on voit que vous n'êtes pas vraiment là. Est-ce que, tu vois, c'est quelque chose que qu'on t'a dit
Oui, être petit, oui, mais pas être petit parce que je suis indien. Parce que, bon, après, je jouais bien. Mais le foot a ce truc un peu particulier par rapport à tous les autres sports. Ils ont eu beau, à un moment, vouloir mettre des grands physiques, les petits, on s'en sort. Le ballon, il est par terre. Hein. Tu peux faire ce que tu veux, le ballon, il est par terre. Donc, tu vois, Messi, il fait 1m66, je crois. Maradona, pareil. Julie, il était petit. Javi, Iniesta, ils ont joué ensemble au même moment, dans la même équipe. Tu peux pas. C'est pas possible. Je veux dire, le foot, le ballon, il est par terre. Et tu joues avec les pieds. C'est un truc un peu extraordinaire, hein, le football, il faut savoir. Je veux dire, moi, je faisais jamais de tête parce que je me suis dit, mais en fait, la gravité fait que le ballon, je vais pas me prendre la tête.
C'est clair. C'est vrai qu'en termes de logique...
J'ai niqué la tête.
Intelligence du jeu, dirait Willy Sagnol.
Intelligence, ouais.
y en a là-dedans, hein, même chez les Noirs. et du coup, il y a un autre truc qui m'intéresse par rapport à tout ce qu'on peut dire aussi sur l'équipe de France, c'est la question de la loyauté par rapport au drapeau et la question de la Marseillaise. Il y a eu beaucoup de critiques par rapport au fait que certains joueurs ne sifflaient pas la Marseillaise. Or, il est apparu que dans le passé, d'autres joueurs qui n'étaient pas d'origine étrangère, je pense notamment à Eric Cantona ou à Michel Platini, ne chantaient pas la Marseillaise, mais que ce n'était pas perçu à l'époque de la même manière, comme quelque chose qui était de l'ordre du refus d'allégeance à la nation. Est-ce que toi, t'as été exposé à ces polémiques-là et qu'est-ce que tu as entendu à cette époque?
Elles sont arrivées en même temps que Marine Le Pen a imposé les mecs qui chantaient pas. C'était marrant parce que par exemple les Espagnols ils chantent pas leur hymne, il y a pas de parole. Tu vois, donc on va pas leur dire ouais t'as vu, enfin qu'est-ce que tu vas faire, tu vas fredonner, enfin tu vois comment tu montres ton amour de la nation quoi. Moi je prends toujours l'exemple de mon père. Mon père qui est arrivé de l'île Maurice, il était illettré, il parlait pas français, il bouffait pas français. Il bouffait pas français. Il avait plein de potes à l'époque quand il travaillait, puis le chômage est arrivé, il s'est retrouvé avec sa communauté. Puis il était français, quoi. Je veux dire, il avait d'autres symboles. Moi, Notre-Dame de Paris, par exemple, ça me parle pas, quoi. Je veux dire, je m'excuse, je parle jamais devant. Ça, c'est pas mon histoire, je ne sais pas ce que... Voilà, et par contre, j'ai joué au Milan AC, j'ai défendu la France, j'aime la France, j'aime la bouffe française, mes copains sont français, j'aime la langue, j'aime plein de choses, quoi. Mais évidemment, je suis pas attaché à l'Arc de Triomphe, genre tout ça, ça me dépasse, quoi.
Là, ce sont des symboles.
Voilà, et on peut aimer la France. Mais comme... c'était encore une fois un moyen de stigmatiser et puis de dire bah, si vous ne faites pas comme ça, vous n'êtes pas dans le moule. Franchement, moi, j'en ai rien à faire de tout, en fait. Je veux dire, tu peux mettre une femme voilée, une femme en boubou, une blonde. Enfin, je parle que des femmes, en plus. mais j'en ai juste rien à faire, quoi. Ça ne m'intéresse pas. Je me retrouve à défendre des trucs comme ça. Et la plupart des gens s'en moquent, hein. Si tu réfléchis bien, moi là j'étais l'autre fois à la plage, il y avait plein de gens mélangés, tout le monde se mélange, tout le monde est là et ça se passe super bien, il n'y a rien.
Mais en fait, ce dont on se rend compte, c'est que souvent les polémiques alimentent le sentiment de défiance dans la population. C'est-à-dire qu'avant, à l'époque, c'était en 2011, la polémique sur le voile intégral, les gens n'avaient pas trop d'opinion sur le sujet. Et après, quand on faisait des sondages, on voyait qu'il y avait une opposition majeure, alors que déjà, on en voit très peu en France, et finalement, c'est pas quelque chose qui perturbe vraiment les gens dans leur quotidien.
Non, je pense pas, non. Ça dérange qui que des mères d'élèves voilées accompagnent leurs enfants?
Absolument.
Ça dérange
qui? Et là, c'est
qui,
en plus, c'est un foulard.
Ça fait peur à qui? Ça met en danger la République française, nous, le pays de la France.
Ouais, en fait, ça met toujours en danger ceux qui pensent qu'ils ont une mission civilisatrice. Oui. Ceux qui pensent qu'ils ont raison et que du coup, t'as tort. Enfin, ouais. Finalement, on en revient encore à ça, c'est que si on est pour la liberté, on peut pas s'offusquer que les autres la prennent.
Ouais.
Par contre, si tu crois que ta liberté, c'est celle que tout le monde devrait faire, enfin tout le monde devrait prendre, alors oui, du coup, tu t'inquiètes de pourquoi tu fais pas comme moi. Moi, j'ai la vérité. Si tu fais pas comme moi, c'est que t'as tort. Et en fait, c'est ça, cette réflexion qu'on a autour de toutes ces pratiques qui nous reviennent pas.
Puis c'est pas à moi de décider qu'une femme voilée, c'est une atteinte à la femme ou, enfin, je sais pas, c'est pas à moi de le décider, quoi.
Ce qui est une atteinte à la femme, c'est d'empêcher une femme de faire ce qu'elle veut.
Ouais.
Quoi. C'est ça, en fait, enfin, atteinte aux droits des femmes. Je propose qu'on écoute un extrait audio, puisque dans le foot, il y a les sportifs, il y a les dirigeants, mais il y a aussi les commentateurs journalistes. Donc on va en écouter un qui t'avait fait réagir cette année d'ailleurs.
Il y a de belles stats quand même, hein. 6e but, 5e passe, 5 passes décisives, c'est pas mal pour un noir joueur qui n'a été titulaire.
Pas mal pour un noir, vous avez bien entendu, c'est la voix du consultant, tout le monde est hilar, Daniel Bravo, que l'on entend. C'était en avril 2019, pendant un match de Ligue 1 entre Strasbourg et Reims, c'était sur Beansport, et parlait d'un but marqué par le joueur Nuno Da Costa. Donc la chaîne a présenté des excuses.
Je suis embêté, j'ai joué avec Daniel, je l'aime beaucoup.
Mais après, c'est l'inconscient parfois qui parle.
Ouais, malheureusement. Non, mais vous avez vu ce truc avec, aux États-Unis avec le mec et la nana qui est en train de... Puis il lui dit, oui, il voit un singe. Puis il dit, ouais, t'as vu, il se ressemble.
Non,
t'as pas vu ça?
Non.
Ah, mais faut vous regarder ça.
C'est dingue.
La nana, elle est avec son copain qui est Renoir.
Ah, mais si.
Mais oui.
Mais si, carrément. Après, elle a fait une autre émission derrière.
Après, elle s'est excusée.
Ah oui,
et
oui,
tout
c'est
ça.
Oui.
Tu vois, c'est un peu
c'était
ça.
C'était incroyable.
Quoi.
Non, mais ça, c'était vraiment. Ça, c'est encore pire.
Bah, c'est encore pire. Mais bon,
parce
voilà,
là, vraiment,
Daniel,
ouais.
C'est ça.
Bon, sinon, on va passer à un autre extrait qui, dans un autre sport, mais qui pour moi fait vraiment mobilise toujours des catégories un peu caricatural.
Je pense qu'elle aura mérité un bon bol de riz ce soir.
Ah mais tu fais ça.
Alors là, c'est Philippe Candeloro qui me commentait sur France 3 les JO de Turin en 2006. Et c'est une performance d'une patineuse japonaise, patineuse artistique, qui est devenue championne olympique. Elle s'appelle Shizuka Arakawa. Les sushis, le bol de riz, c'est un truc qui revient souvent. Hein, je veux dire, dès qu'il y a une personne d'origine asiatique qui fait quelque chose, une performance, c'est y avoir un espèce de rapport à la bouffe. Parce que c'est un peu ce qu'on connaît aussi de ces pays-là, qui est vachement populaire ici. Mais ça, c'est insupportable. Enfin, moi, ça m'insupporte parce que...
J'imagine, oui. tu fais ça avec tes copains chez toi, quoi.
Avec un peu de complicité, parce que là, c'est vraiment
débile. Non, mais si t'es...
Parce que moi, grâce, si je lui fais ça, je pense pas qu'elle va rigoler.
Non, mais pas avec toi, eux, entre eux.
Ah oui.
Ils sont eux, entre eux. Vas-y, tu fais ça chez toi,
oui,
quoi.
Ça. Mais oui, non, mais c'est ça, il avait un micro. Et
toi, c'est comme Griezmann que j'aime bien, parce que... Mais quand il fait sa white face, tu vois, pareil.
Blackface.
Blackface, tu vois, tu fais ça avec tes copains, quoi. Mais il y en a pas un qui lui a dit, faut pas faire ça, mec. Mais non, le mets pas sur Twitter, quoi.
Non, mais le pire, c'est que j'imagine le temps qu'il a passé à peindre le visage, dire, les bras, il devait se dire « Ah, je suis trop stylé !»
Puis se dire « Attends, je vais le mettre, ça va être trop marrant ouais. !»
Et alors moi aussi, j'ai
mais c'était excusé derrière.
Ouais, oui, alors il y a ça, mais il y a aussi, bon, moi, les copains noirs qui ont dit « Ah non, mais moi, je le connais hyper bien, ouais. Il est pas raciste, hein, tu vois. » Et ça, du coup, c'est, je sais que toi, tu l'aimes bien, tu vois, tu dis que c'est un pote, enfin, que c'est quelqu'un qui n'a pas un mauvais fond, tu vois. Parce que le racisme...
Daniel Bravo, ouais.
Oui, Daniel Bravo, même Griezmann, tu vois.
Parce que le joueur, du coup, a posté un tweet pour dire voilà, c'est un lapsus.
Mais révélateur, du coup. Un lapsus révélateur qui va encore nous montrer quel est le... Tu vois, qu'est-ce qui est accepté ou pas dans cette société et qu'est-ce qui a encore cours, quelles idées du passé ont encore cours.
Les temps ont changé et ça ne passe plus. On n'a plus le droit, on ne le fait plus. Et puis aussi, la blackface, si des Noirs te disent faut pas le faire, le fais pas. Et c'est vrai que beaucoup de Noirs ont dit « Ouais, mais moi, ça me fait rire. »
Voilà.
D'ailleurs, il y en a même un, alors, je ne sais plus c'est qui, c'est un acteur de je ne sais plus quelle série, il s'est mis en blanc en disant « Regarde, tu vois, et alors, je suis raciste anti-blanc. »
Oh là là, ouais.
Donc c'était vraiment la tristesse. Quoi.
Une grosse ignorance, puisqu'évidemment, se peindre en blanc,
c'est
ça n'a rien
à
voir avec les
blancs. Il faut éduquer les gens.
Il
n'y
a pas d'histoire de la stigmatisation des blancs.
Quand j'ai fait ce débat TPMP, il y a quand même une nana qui a dit que le racisme anti-blanc... Alors, c'était... Je peux la citer, hein. Christine Kelly, je crois, qui a démarré le racisme anti-blanc. Elle raconte une anecdote. L'anecdote, c'est des blancs ont piqué la plage des noirs et les noirs sont pas contents.
Et donc ils se sont manifestés et ça, du coup,
c'est du racisme anti-blanc.
Et, voilà.
Et puis à la fin du débat, quand même, Nolo et qui sort. Oui, mais ils ont quand même aboli l'esclavage. En plus, faudrait te remercier, mec.
Après la Christine Kelly, c'était une histoire qui se passait aux Antilles.
Ouais, c'est ça.
Oui.
Qui est donc, du coup, un symbole de...
C'est un truc de fou qu'elle puisse dire ça.
Ouais, d'ailleurs, t'as rebondi pour dire...
C'est la seule fois où j'étais en colère. Alors, j'étais en colère tout le temps, mais là, plus que la fois d'avant.
Non, mais l'ignorance, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut... on peut avoir des réactions qui sont pas... Voilà, qui sont sans fondement et bêtes. Mais du coup, quand même, quand tu t'exprimes à la télévision, quand tu es quelqu'un qui a des responsabilités, quelles qu'elles soient, tu fais Google avant de dire quelque chose, tu vois. Enfin,
quand Pierre Ménès a dit que son fils était victime de racisme anti-blanc. En fait, le racisme anti-blanc était le principal problème dans le foot et que son propre fils était victime de racisme anti-blanc parce que, en fait, en gros, les gens n'étaient pas très sympas avec lui dans le club où il jouait. Après avoir dit quand même qu'il n'était pas bon, qu'il n'avait aucun talent, et il a dit ouais, personne ne lui passe le ballon, je me suis dit c'est peut-être pas parce qu'il est blanc. Et en fait, ce que j'ai trouvé dingue, c'est que Bafé Gomis, quand même, le joueur, l'a défendu. Et en fait, par rapport à tout ce qu'on a dit précédemment, il y a beaucoup plus de joueurs qui défendent des personnes qui ont des attitudes problématiques que de joueurs qui ont défendu Lilian Thuram. Et là, je me dis, mais il y a quand même un souci.
Il y a un énorme souci. Mais c'est très dur de prendre la parole, tu sais. Moi, après TPMP, je me suis dit pourquoi je suis allé là-bas, c'était dur. Ah ouais, c'est pas mon truc, quoi. Moi, j'ai envie... Et je me bats, hein, tu vois, j'y suis allé, j'ai pas peur et tout ça, mais c'est un peu trop violent pour moi, quand même.
Ouais, c'est éprouvant.
Mais dans la rue, j'ai croisé un Renoir qui m'a couru après. Il me dit « Vikash, c'est super courageux d'y être allé. » Alors, je me trouve pas du tout courageux. Et il me dit « Mais moi, j'ai 200 personnes sur Facebook et je peux rien dire. Parce que si je le dis, je peux perdre mon travail. »
Ouais.
Tu vois ?
Ouais.
Et c'est ça, quoi. Et moi aussi, j'ai des patrons. Moi aussi, je dois y aller. Et moi aussi. Mais bon, je me sens un peu plus libéré. C'est Toni Morrison qui dit ça, qui dit que à partir du moment où tu t'es un peu libéré, t'as une responsabilité d'aller libérer l'autre. Ça me parle tellement, quoi. Et moi, ça m'a donné, ce mec-là qui m'a parlé, ça m'a donné tellement de courage. Je me dis, bah, je le fais pour ça, quoi. Et il y a un truc qui est important, c'est que je suis sûr. Il faut qu'on se pose, qu'on s'arrête. Les réseaux sociaux, tout ça, c'est de la merde. Il faut qu'on respire tous ensemble. Et à ce moment-là, on verra ce qui est juste pour nous tous. Et ce qui est juste pour nous tous, c'est de vivre ensemble.
Et moi, juste pour terminer, je voudrais dire que là, ce que tu viens d'expliquer, je trouve ça hyper intéressant. Et aussi, pour rebondir sur ce que tu as dit plus tôt, c'est qu'il y a des personnes qui, si... Enfin, vaut mieux qu'elle se taise, en fait. C'est-à-dire que s'il y a des joueurs de foot qui veulent soutenir des personnes qui disent des bêtises, hein, vaut mieux qu'elle se taise.
Bah oui.
plutôt que d'aller contre Lilian Thuram ou contre ces personnes qui s'expriment au nom du bien pour tous, quoi. C'est-à-dire que.
Nous, on veut l'égalité. Il y a quelqu'un, un jour, sur un plateau, c'était sur les hommes et les femmes, c'était pendant la Coupe du Monde. Il m'a dit, ouais, il y a une limite à l'égalité homme-femme. Je dis, bah non, il n'y a qu'une limite, c'est l'égalité.
Bah, c'est une belle phrase pour conclure l'émission. Bah, merci beaucoup. Merci Vikash. Il y a encore
vous,
plein de choses qu'on aurait pu évoquer. N'hésitez pas à nous faire part de vos opinions sur l'échange que nous venons de
mener. Je pense qu'on va recevoir énormément de commentaires là-dessus. T'as pas remarqué, quand on parle de foot, tout le monde croit qu'ils sont sur BFM TV.
Mais c'est ça, donc les gens se permettent de dire, ils ne connaissent rien, là, là.
Et puis voilà, écrivez-nous aussi sur kiftaras@binge.audio ou vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux, même si Vikash a dit qu'il ne fallait pas être sur les réseaux sociaux, mais vous pouvez quand même le faire avec @kiftaras sur Twitter ou Facebook avec le hashtag kiftaras.
Kiftaras est un podcast produit par Binge Audio et réalisé aujourd'hui par Charles Westrelin. On se retrouve dans 15 jours, grâce.
Merci beaucoup pour cette plongée dans les questions raciales. Merci Vikash.
Merci Grâce.
Merci Rokhaya.
À bientôt.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.